Vendredi 4 février, bienvenue au show du matin. Sylvain Saint-Don, mon partenaire du vendredi de temps en temps de retour. Ça faisait un bout qu'on ne t'avait pas vu, Sylvain, comment ça va?
Le vendredi occasionnel.
Ouais.
Salut, Jean, ça va bien?
Ça va super bien. Ce matin, on s'en va dans une autre direction. On reçoit Lan-Anne Phan de l'Académie de baseball du Canada. Sylvain, tu la connais bien, donc je vais te laisser la présenter.
Lan travaille avec nous, avec nos athlètes à l'ABC en préparation mentale. C'est évidemment quelque chose qu'on a mis l'accent les dernières années. On avait commencé le projet, Lan, je me souviens bien, en 2019, qu'on avait commencé à élaborer. Oui. Là, évidemment, avec la pandémie et tout ce qui est arrivé, bien, ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est un morceau qu'on met beaucoup l'accent, Jeff, présentement, dans notre structure. On n'est pas sans savoir ce qui est arrivé aux Olympiques avec Carey Price récemment. C'est un sujet qui est je pense, Lan, tu vas avoir beaucoup d'ouvrages dans les prochaines années, là, c'est clair. Là. Je pense qu'il y a une ouverture dans la population à savoir, OK, il faut avoir un coach à ce niveau-là, puis c'est très important. Donc, c'est des morceaux qu'on n'échappe pas maintenant. Là, autant les variables techniques, physiques, psychologiques, c'est des morceaux qui doivent être adressés en tout temps. Puis c'est pour ça que Lan est une des collaboratrices avec nous en préparation mentale avec nos athlètes de l'ABC.
Bienvenue au show du matin, Lan.
Merci. Bonjour à vous deux.
Merci. Je commence rapidement sur une petite question, mais les Olympiques commencent aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes attentivement au niveau avec tes fonctions, justement, la préparation mentale, tout ce que ça inclut d'arriver justement après 4 ans à des Jeux olympiques?
Oui, mais c'est une bonne question. Moi, je ne travaille pas directement avec des athlètes olympiques, mais comme fan de sport, j'écoute les nouvelles, je regarde un petit peu ça, mais pas nécessairement avec un œil de consultante. Okay. Je pense que pour pouvoir le faire, ça prend un peu plus d'informations, un peu plus de détails, d'être plus proche de ce qui se passe avec les athlètes pour pouvoir vraiment analyser les situations. Mais je regarde plutôt comme fan de sport, plus qu'autre chose.
Parce que c'est quand même très différent, tu sais, d'être avec des joueurs de baseball à tous les jours ou presque, puis qui ont besoin d'une performance pratiquement, surtout l'été, là, pratiquement tous les jours, puis d'arriver comme un peu aux Olympiques. En fait, je vais arriver à bien le dire, là, mais aux Olympiques, tu as 4 ans pour performer au bon moment, tandis qu'au baseball, tu peux te reprendre à chaque semaine. C'est un peu ça que je veux dire. C'est très différent, j'imagine, pour une consultante d'arriver à un résultat au bon moment.
Oui, exactement. J'imagine que c'est un travail complètement différent parce que ça s'étale sur un 4 ans, donc c'est une réalité pas mal différente.
Oui.
Oui, puis on a tendance aussi, en passant, là, on normalement, Jeff, on prépare des questions, des sujets qu'on veut parler, puis là, on n'a rien fait. On voulait tout de suite éprouver sa dureté du mental avec Lan. On voulait tout de suite la mettre en anxiété. Fait qu'on s'est dit, on va tout de suite aller dans le bassin. Petite question pour toi, Lan. La clientèle, on a tendance, si on parle des Olympiques, on se dit, ah ben là, c'est là qu'on a besoin du préparateur mental, un gros événement, tout ça, mais il faut qu'il y ait un travail qui soit fait en amont, un petit peu avant.
Absolument. Je dirais même que le plus tôt possible, le mieux. C'est sûr que avec le développement à travers les années, le côté psychologique change un peu, surtout à l'âge, à l'enfance, à l'adolescence et tout ça. Mais s'ils peuvent avoir au moins un contact avec le concept de l'aspect psychologique dans les sports dès le début, c'est sûr que ça va aider quand il va être rendu dans un niveau plus élite. Parce que là, les réalités changent, la pression change, le contexte, les enjeux changent. Mais c'est jamais trop tard, là, évidemment, là, de commencer à travailler le côté psychologique. Mais c'est sûr que, comme tu dis, là, d'avoir fait un travail préalable, c'est idéal.
À l'ABC, la clientèle est en moyenne 16 à 18 ans. Oui. Donc, on parle de fin de l'adolescence. Y a-tu un âge, justement, qu'on devrait commencer à préparer le terrain? Y a-tu un âge idéal? J'imagine évidemment là, selon le niveau de performance, etc., ben même le calibre, ça soit un joueur ABC, un joueur 2A, un joueur A, un joueur B, est-ce que la préparation mentale s'adresse uniquement à une sphère d'athlète?
Non, je pense que c'est pas mal plus de population générale. Tu sais, veux pas, même si tu es dans un sport récréatif, qui n'a pas nécessairement les mêmes pressions, il y a quand même un aspect mental au sport, surtout au baseball. Mais peu importe l'âge, peu importe le niveau de compétition. Fait que pour répondre à ta question, comme je le disais, évidemment, le plus tôt, le mieux. C'est sûr que, mettons, à l'âge primaire, peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement les capacités de comprendre un peu leurs pensées, leurs émotions, tout ça. Mais moi, je mettons, mes plus jeunes, ben, sont en secondaire 1, donc 12 ans, 13 ans. Puis, tu sais, ça se prend super bien, là. Ils absorbent très bien la théorie, mais aussi l'application. Fait que je dirais pas mal dans cet âge-là, là, c'est un bon moment.
Parce que la mise en pratique demeure l'élément le plus compliqué. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'ABC, où ce qu'on commence à justement à t'utiliser en plein été. On a une phase de développement là, qui sont le mois de mai, le mois de juin, pendant l'école, si tu veux, au niveau de l'ABC, dans notre ligue de développement. Ben à ce moment-là, on veut que les interventions se fassent sur le terrain. Donc, l'année passée, on avait commencé à explorer ça, qui était à cause du COVID beaucoup plus compliqué, etc. Ouais. C'est quelque chose qu'on veut mettre l'accent présentement. Est-ce que tu es capable, avec tes athlètes, justement, de les accompagner jusqu'à la compétition? Parce que c'est, comme tu dis, la théorie, c'est correct. Absorber des concepts, il faut comprendre. On ne peut pas appliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, d'après moi. Là. Mais, ce suivi-là, est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce que tu es capable de suivre jusqu'en compétition tes athlètes en général?
Oui, je pense que il ne faudrait pas manquer cette partie-là. Comme tu dis, l'application, c'est la plus grande partie de cet apprentissage-là. Fait que oui, idéalement, si on est capable d'être, mettons, en consultation individuelle ou en groupe, plus théorique, puis ensuite d'être capable d'être sur le terrain, bien, c'est sûr que je vais préférer cette approche-là. Je pense que quand je suis sur le terrain, c'est pas nécessairement dans ces moments-là où est-ce qu'on va instaurer des nouvelles pratiques ou des nouvelles stratégies, c'est plutôt des rappels ou même de l'observation. Parce que je vais les regarder aller. Ouais. Ensuite, dans un rendez-vous plus tard, ben, tu sais, je vais peut-être pointer certaines choses et dire, ah, tu sais, dans ce moment-là, quand tu as vécu cette expérience d'échec-là, par exemple, tu sais, as-tu pensé à faire la stratégie qu'on avait discutée au préalable? Fait que c'est de l'observation, des rappels. C'est sûr qu'eux, ils vivent beaucoup de choses là, en action. Fait que c'est pas nécessairement le moment là, d'intervenir super longtemps, mais c'est des interventions brèves qui vont leur permettre de créer des liens entre ce qu'on discute puis ce qu'on veut appliquer.
J'ai envie de savoir rapidement, je vais faire un pas en arrière, mais consultante, des interventions brèves, c'est quoi, quand tu arrives à l'ABC, qu'est-ce que tu fais exactement? Est-ce que tu vas vers les joueurs? Est-ce que c'est les joueurs qui vont vers toi? Est-ce que tu as des séances individuelles avec eux juste pour discuter sur le terrain? Est-ce que c'est des discussions de 30 secondes, une minute, 10 minutes? Comment ça fonctionne exactement avec les joueurs?
C'est une bonne question. C'est sûr qu'en ce moment, avec l'ABC, on est en train d'expérimenter. Je veux aussi mentionner qu'il y a deux autres consultants en performance mentale là, avec l'ABC. Donc, on se divise le travail parce qu'il y a beaucoup d'athlètes. Ouais. Mais pour le moment, avec l'ABC, c'est ça. J'ai des rencontres individuelles maintenant par Zoom avec la pandémie, avec les athlètes qui ont un besoin spécifique, pas nécessairement un problème, mais qui ont des curiosités, des questions, des questionnements à me partager, fait que j'ai ça. Ensuite, là, récemment, on a commencé des rencontres de groupe où est-ce qu'on discute des thèmes de psychologie sportive. Fait que ça, je trouve que côté éducation, ça aide parce que ça permet à tous les athlètes d'avoir un contact ou une introduction à certains sujets, puis à leur permettre d'en discuter entre eux. Fait que ça, c'est cool. Puis aussi, dans les rares occasions que j'ai eu la chance de venir en personne, là, malgré les circonstances, c'est des interventions brèves, comme je dirais moins de 30 secondes, où est-ce que, tu sais, je peux donner des mots-clés, des phrases-clés, mais c'est pas des super longues conversations. De toute façon, eux sont concentrés sur autre chose, que ce soit la pratique ou un match. Fait qu'ils ont pas tant de temps à me donner non plus, puis c'est correct.
Parce qu'au baseball, ça demeure que, je pense que tout le monde est conscient que, bon, on parle d'un bon frappeur au baseball qui frappe 300 de moyenne au bâton. Ça signifie carrément qu'il y a 7 échecs sur 10. Donc, en partant, si on arrive dans un parkland puis on voit une confrontation lanceur-frappeur puis on met notre argent sur le lanceur tout le temps, on va devenir millionnaire là. on va toujours gagner parce qu'on a quand même les odds sont pour nous, tu sais. Ouais, c'est ça, sont pour nous. À ce moment-là, est-ce que le baseball a une particularité aussi de dealer avec l'échec, etc.? Est-ce qu'on a un sport comparé à d'autres avec qui tu travailles qui est plus dur de ce côté-là, au niveau mental?
Je dirais que oui. Donc, évidemment, il y a de l'échec dans tous les sports, mais surtout au baseball, parce que malgré que c'est un sport d'équipe, il y a quand même beaucoup d'individualité. Tu sais, on parle de confrontation, donc c'est un versus un. Donc, on est beaucoup exposé. Tandis que dans, d'autres sports où est-ce que oui, tu peux avoir un échec, mais il y a quand même, tu sais, tous tes coéquipiers alentour de toi. Fait que les facteurs qui contribuent à l'échec sont multiples. Tandis que quand tu es au mal, ben tu as l'impression que tout est sur tes épaules, puis que quand, mettons, tu sais, ça passe, ben c'est ta faute ou tu mets tout le poids sur tes épaules. Fait que dans le fond, oui, c'est particulier pour le baseball. Puis je dirais surtout que j'ai remarqué là, avec mon expérience, là, c'est les stats. Les statistiques, là, les athlètes de baseball sont accrochés à ça au maximum. Puis ce pourcentage-là, comme tu disais, t'sais, frapper 300, t'sais, c'est super bon. Ben, ce pourcentage-là, cette statistique-là, ils sont beaucoup attachés. Ils se définissent beaucoup par ça. Puis ça, je dirais que c'est particulier là, du baseball.
Oui, puis c'est très malsain aussi comme référence. On en parle quelquefois. Ben, j'adore ton analyse individuelle parce que je mentionne toujours à GF qu'on est un faux sport collectif. C'est vrai, on est un paquet de confrontations individuelles qui meublent un collectif. C'est carrément différent. Là. La balle est frappée au joueur d'arrêt court. Quand même que j'ai le meilleur chanceur de la planète, ça va rien changer à la situation. Tandis qu'au hockey, si on a le meilleur centre de sa planète avec nous, sa patinoire, moi-même, je peux compter 20 buts par année. Là. Tu sais, c'est comme ça donne un gros coup de main. Comme tu dis, Jeff, t'as l'air un petit peu ambivalent.
Moi, un peu.
OK, fais plus jamais ça. OK, 15 buts par année. Mais j'aime le côté projection. Tu sais, l'écran est sur toi et les feux de la rampe sont directement alignés dans ta direction. Fait que c'est très tough. Puis malheureusement, les statistiques, on en a déjà parlé aussi ici, puis on va en reparler. Je te dirais que les parents, en particulier, sont mordus avec ça. Puis le plus bel exemple que je peux te donner, là, au retour d'une partie de baseball que le parent a pas été, où le jeune revient à la maison, puis ta game de baseball, comment ça a été? Ah, j'ai frappé 2-4. Ah, OK, bonne game.
Ouais.
Ça se résume à ça. C'est
exact.
C'est comme on veut avoir un chiffre de stats au lieu de dire que j'ai eu 3 bons contacts à 4 ta pression au bâton, etc. Puis on en revient souvent à ça, puis c'est plate parce que les fameux stats que eux autres regardent, puis ça les perturbe. Nous, à les niveaux supérieurs pour des sélections, on regarde pas ça. Donc, je pense que c'est un combat qu'on va avoir à vendre d'une façon régulière. Les chiffres, puis de valoriser beaucoup autre chose à l'intérieur de la performance.
C'est quand même gros ce que tu viens de dire, Sylvain, puis c'est vrai qu'on a déjà parlé, mais tu sais, le fameux, au niveau supérieur, vous allez regarder le joueur frapper 4 solides contacts, mais il est 0-4, tandis que l'autre qui est 3-4 à côté, puis qui a des mauvais coups, qui a été chanceux, ben lui, il a été chanceux ou c'est jammé dans les mains, ou tu sais, c'est une phase importante, je trouve, puis ça peut jouer beaucoup sur le côté psychologique.
Exactement. Ce que j'allais dire là-dessus, c'est, excuse-moi Sylvain, c'est que c'est pas toutes les 2-4 qui se ressemblent.
Exact.
Un 2-4 puis un autre 2-4 vont être différents. Puis je trouve qu'on passe à côté du côté qualitatif. C'est la qualité de ta présence au bâton.
C'est plus important.
C'est le plus important. Ouais. Puis c'est ce qui va te permettre justement peut-être à la prochaine présence, tu sais, d'apprendre, de comprendre, puis d'en avoir une meilleure. Mais tu sais, si on prend juste les chiffres, c'est sûr que ça dit pas toute l'histoire. Là.
Lan, si tu avais à armer un joueur de baseball ou un autre athlète, tu sais, n'importe qui, tu dirais, bon, moi, il y a deux morceaux hyper importants qu'il faut que cet athlète-là possède dans son répertoire de préparation mentale, ça serait quoi?
Ouf, c'est une question très difficile, mais je vais m'avancer quand même, je prends le challenge. Je dirais de base, c'est la conscience de soi.
Conscience?
En anglais, en anglais, c'est le self-awareness.
Okay.
Parce que si tu n'es pas conscient de tes pensées, tes émotions, ton comportement, c'est très difficile d'amener des changements. Donc, même si tu sais, on essaie de travailler sur d'autres aspects, confiance en soi, concentration, tout ça, mais si tu n'es pas capable de réaliser où est-ce que ton esprit est dans le moment, c'est très difficile, là, comme j'ai dit, d'amener des changements ou des améliorations. Fait que je dirais ça.
OK, je t'arrête tout de suite, si tu permets. Est-ce que ça, cette connaissance de soi-même, en entraînement, puis quand il arrive la compétition, est-ce que ça se peut que la lecture de l'individu de lui-même est complètement erronée?
Complètement erronée, peut-être pas. Influencée par l'environnement, oui.
OK.
Fait que je répondrais de cette manière-là. Fait que oui, pratique et compétition, c'est des contextes différents qui viennent affecter là, cette perception. Mais ça se travaille, donc plus on le travaille en pratique, je pense que tu deviens meilleur là, à justement laisser tomber les facteurs externes pour vraiment te concentrer sur ce qui se passe chez toi.
OK. Puis tu parlais d'un deuxième. Aurais-tu un deuxième morceau qui...
Oui, le deuxième morceau, c'est la résilience. C'est ton habileté à faire face ou à surmonter l'adversité. Puis ça peut être n'importe quoi, l'adversité. Ça peut être des imprévus, ça peut être l'échec, une erreur. On sait que les sports, dans tous les sports, rien n'est prévisible. Donc, d'être capable de composer avec ça puis de continuer à persévérer à travers sans te faire trop débalancer, ça, je pense que c'est une qualité que tous les grands athlètes partagent puis que j'encourage les jeunes athlètes, ou en fait tous les athlètes à développer, parce que c'est un gros morceau. C'est inévitable, en fait.
Oui, puis on le vit très bien depuis 2 ans en plus.
Exactement.
On va se le dire, là, on baigne là-dedans présentement.
Anne, t'es impliqué dans d'autres sports que le baseball?
Oui.
C'est quoi la différence ou qu'est-ce qui est plus difficile ou facile dans les deux côtés de la chose, mais par rapport aux autres sports avec le baseball?
Bonne question. Qu'est-ce qui est plus difficile?
L'approche des joueurs, peut-être. Hein?
Ben c'est si je veux travailler en groupe, en équipe, je peux pas avoir la même approche avec une équipe de hockey, de basket, de volleyball comparée à une équipe de baseball. On l'a dit tantôt, là. C'est trop individuel. On peut parler de cohésion de groupe, mais en réalité, tu sais, ton groupe de baseball n'est pas obligé de s'aimer autant, puis oui, communiquer évidemment, mais ça peut être quand même très individuel. Il y en a quelques joueurs qui peuvent, tu sais, tirer le groupe vers le haut, tandis que dans certains autres sports comme le football, ben, tu peux pas t'en sortir sans tous les membres de l'équipe. Fait que de ce côté-là. Sinon, individuellement, je pense que c'est pas mal similaire. Tu sais, c'est quand je travaille un à un, oui, le sport est important parce qu'on va utiliser les termes reliés au sport, mais à la fin de la journée, je prends la personne comme une personne complète, étudiant, athlète, personne à part entière. Fait que je vois pas nécessairement cette différence-là. C'est sûr là, qu'il y a certaines particularités, mais je dirais pas que c'est des difficultés là, comparées aux autres sports.
Est-ce que pour toi, c'est important de connaître le sport? Est-ce que ça devient une difficulté à un moment donné de s'élargir dans trop de sports puis de bien connaître les sports pour amener les personnes ou bien les comprendre?
Ça prend un minimum, parce qu'évidemment, quand tu es un athlète, tu as un slang, des expressions que tu utilises. Puis je pense que surtout au baseball, pourquoi ça a été important pour moi de m'impliquer dans plusieurs contextes de baseball puis d'être là sur le terrain l'été, c'est parce que c'est particulier de comprendre ce que ça veut dire 0 en 4. Mais si tu comprends pas le sport, tu n'arrives pas nécessairement à supporter l'athlète de la meilleure façon. Puis on parle de baseball, mais c'est comme ça dans tous les sports. Tu sais, les termes, donc le vocabulaire est vraiment important. De comprendre la dynamique aussi de ce qui se passe pendant la compétition, c'est important. Puis je pense pas que tu peux être dans trop de contextes, c'est tant que tu t'intéresses à chacun des contextes dans lesquels tu travailles, mais oui, pour moi, c'est important. Est-ce que tous les consultants le font? Je le sais pas, mais moi, j'aime bien là, m'immerger dans l'environnement pour mieux comprendre l'athlète puis ce qu'il vit.
Ça développe aussi une meilleure complicité que les athlètes. Il n'y a pas un être humain qui trouve pas ça agréable qu'on s'intéresse à eux live, sur le terrain, comme tu mentionnes, ou qu'on comprenne sa réalité. Parce que, comme tu dis, si on ne sait pas le 0 en 4, qu'est-ce que ça peut signifier comme fracas mental chez un athlète, c'est plus dur pour toi d'arriver et d'être capable d'approcher et d'être crédible. Parce que le lien que tu vas créer avec l'athlète que tu vas encadrer, là, c'est énorme. Puis ce lien-là, c'est pas. On ne se connecte pas sur un lien Internet puis le lien passe tout de suite. Là. Comment tu fais pour briser la glace? Comment tu fais pour établir ce premier lien-là avec les athlètes? Parce que il y en a qui nous écoutent présentement et qui se disent « OK, mais moi, je suis gêné d'aller vers un préparateur mental. Je suis pas confortable. Je vais attendre qu'elle vienne à moi. » Mais toi aussi, c'est gênant. Là, entre deux gênés, il n'y a rien de pire. Là. Comment tu établis ça?
Ben là, tu me demandes ma recette secrète.
Ah, on ne peut pas la dire, sinon moi puis Jeff, on va se faire éliminer, c'est ça?
Mais non. Okay. C'est pas compliqué, tu sais. Moi, je pense que d'être authentique, bon, ça paraît un peu quétaine comme réponse, mais d'être authentique, de pas nécessairement agir comme si moi, je suis l'experte dans tout, puis je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est pas l'approche idéale à apprendre, c'est vraiment de t'intéresser à la personne, puis ça commence par une conversation humaine de ben, tu sais, comment ça va, tu sais, puis ça peut être des dans les mettons, je te donne un exemple de rencontre individuelle, ben dans mes premières questions, ça n'a pas du tout rapport avec la performance, ça peut être ben tu sais, c'est quoi tes motivations, pourquoi tu aimes le baseball, c'est quoi tes aspirations, qui sont tes joueurs préférés. Ça peut être des questions comme ça qui sont générales, mais qui démontrent que je m'intéresse à la personne. Puis, ben, comme je l'ai mentionné, ben, d'utiliser des termes avec lesquels ils sont familiers. Ils ne te demandent pas d'être expert ou experte dans leur sport, mais au moins, tu sais, de t'y intéresser. Puis, des fois, ça fait des moments drôles, des moments cocasses, parce que je me trompe, puis j'utilise un mauvais terme, comme une balle ou une prise, puis là, je les inverse. Puis là, bon, ça rit un peu, puis on continue là-dessus, mais c'est ça, je pense que c'est de venir avec des bonnes intentions, puis d'avoir la personne en priorité plutôt que d'imposer ton expertise aux autres.
Parce que c'est assez récent, hein, la psychologie dans le sport, là, en termes d'années, là, ça fait pas si longtemps que ça que les athlètes sont ouverts de parler de psychologie dans le sport. Est-ce que tu ressens encore un peu ce mur-là où tu sens que 100% des gens ou les athlètes sont très, très, très ouverts parce qu'ils savent que ça fait partie de leur futur succès, en fait?
Je pense que le niveau où est-ce qu'on est rendu, c'est que tout le monde arrive à accepter que c'est une partie intégrante du sport. Donc, je pense qu'il n'y a pas un athlète maintenant qui peut nier que le côté mental est super important.
Ouais.
Je pense que le blocage en ce moment, c'est comment est-ce que ça s'applique à moi. Donc, il y en a beaucoup qui disent « Ah, je comprends pourquoi ça marche pour d'autres. Je comprends pourquoi ça existe. » Mais de se projeter dans ces moments-là, c'est encore ce lien-là qui n'est pas encore fait pour tout le monde. Je dirais qu'il y a certains sports qui sont plus avancés que d'autres. Là, je pense que le baseball est très ouvert. Même si on regarde là, dans les ligues majeures, pas mal toutes les équipes de la Ligue majeure de baseball ont une équipe de consultants, pas juste un. Tandis que d'autres sports en ont pas du tout. Fait que ça va aussi avec la culture du sport. Mais je te dirais qu'on est rendu là, que c'est commun. C'est plus tabou. Mais d'aller rechercher ces services-là par soi-même, c'est encore là où est-ce que je vois le blocage. C'est souvent recommandé par des coachs, des parents ou autres, plutôt que l'athlète lui-même ou elle-même là, qui va chercher ces services-là.
Ah non, au fil des générations, évidemment, le profil des individus change d'une génération à l'autre. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un peu plus de générations que toi jusqu'à présent.
Oui.
Ça, c'est pas trop ton oui, là, quand même. Puis, mais je te dirais que ce que je remarque dans la génération présente, ils ont un peu ce qu'on appelle la permutation facile. Ça veut dire que dès que ça fonctionne pas nécessairement, on se tourne de bord puis on s'en va dans une autre direction. Je t'inscris à des cours de judo. Après deux cours, j'aime pas bien ça. Maman, papa, j'aime mieux faire autre chose. On cancelle le cours. Ils ont leur téléphone, ils ont une tablette, ils ont la TV, ça se promène dans tout partout, etc. Est-ce que ce genre d'athlète-là va amener... pour le centrer, on est beaucoup dans la fixation d'objectifs avec eux. Est-ce que c'est une démarche sensée? Y a-t-il une façon d'encadrer différemment ce type d'athlète-là qui... démissionne des sports de combat parce qu'il dit « je suis impliqué dans d'autres sports », puis des sports de combat, en réalité, que 3-4 bons coups de poing, puis on enlève les gants, puis on dit « OK, on va faire autre chose, ça ne tente plus », etc. Ouais. C'est-tu une réalité particulière qu'on vit présentement avec cette génération-là versus l'importance de l'efficacité d'objectifs, etc. Donc?
Oui, je confirme que j'observe les mêmes choses que toi. Je pense que c'est aussi au niveau de l'attention, c'est pas nécessairement au niveau de l'intérêt où est-ce qu'on abandonne, mais l'attention est moins soutenue longtemps. Puis là, bon, j'ai pas la même expérience que toi, mais je le vois. Je le vois que l'attention est pas mal difficile. Fait que oui, c'est vrai que je passe un peu plus de temps à travailler sur comment est-ce qu'on peut se reconcentrer, donc perdre notre focus puis le reprendre. Ça, je pense que c'est vraiment un sujet. Mais je pense que ça revient aussi à ce que j'ai dit là, en termes de résilience. C'est de comprendre que de l'adversité, c'est pas la fin du monde, c'est une étape qui va te propulser vers l'avant. Ben c'est peut-être cette mentalité-là que j'encouragerais à développer chez les athlètes, même s'ils sont tout jeunes, tu sais, de persévérer à travers certains obstacles qui semblent énormes pour eux, mais de tranquillement avec le temps, ben, discuter avec eux, puis de leur faire comprendre que c'est pas aussi gros qu'ils le pensent, puis qu'ils peuvent continuer malgré que leurs émotions leur disent de vouloir d'arrêter. Donc, je pense que c'est beaucoup la résilience.
Lan, quelqu'un nous écoute ce matin et qui dit hey, moi, c'est le genre de métier que j'aimerais faire, c'est quoi ton parcours pour en arriver là?
Oui, donc moi, j'ai fait une maîtrise en psychologie de la performance à l'Université d'Ottawa. Pourquoi j'ai été en Ontario? C'est parce que c'est le seul programme au Canada de maîtrise qui est appliqué. Donc, il y a beaucoup de programmes ici à Montréal là, qui sont beaucoup en recherche, puis c'est super. Mais ce que j'ai beaucoup aimé de ce programme-là, c'est que j'avais un stage de 400 heures à faire. J'ai été beaucoup sur le terrain. Fait que ça, c'est mon parcours. Puis, dans le fond, pour accéder à cette maîtrise-là, faut avoir un bac dans un domaine relié au sport, donc kinésiologie, ça peut être psychologie aussi, pas nécessairement dans les sports. Puis il y a d'autres critères, là, je ne vais pas trop m'avancer dans tout ça. Mais oui, j'ai fait cette maîtrise-là en psychologie de la performance.
OK. Je pense que Jean-François Ménard, je pense qu'il était allé à Ottawa aussi, si je ne me trompe pas, qui est préparateur mental de Michael Kingsbury, entre autres.
Oui, donc il y a beaucoup là de consultants qui travaillent là dans les hauts niveaux qui viennent de ce programme-là. C'est un très bon programme qui forme bien, puis je suis très fière de représenter là, l'Université d'Ottawa.
Quand tu as la chance d'avoir l'impact sur le terrain aussi, puis d'aller dans la vraie vie, parce que c'est, tu sais, comme tu dis, comme on mentionnait tantôt, il faut connaître les concepts, il faut être au courant du cadre théorique, mais il faut aussi l'appliquer. Puis c'est ça l'importance. C'est bien beau d'avoir. C'est pas parce qu'un préparateur mental vient dans une chambre de joueurs de hockey pour faire un speech avant le match, puis on le voit plus de l'année, ça n'a aucun impact. Il faut que ça soit un travail régulier. Puis je t'amène sur une autre question, Lan, parce qu'on a souvent au baseball, à un moment donné, dire ah, quand ça va mal, j'aimerais ça avoir de l'aide quand ça va mal. Puis moi, ça fait des années je me bats à dire ben non, comprends ce que tu fais quand ça va bien, puis après ça, tu vas avoir un coffre à outils pour dire quand ça va mal, ben, je refouille dans mon coffre que quand ça allait bien, qu'est-ce que je faisais, puis je peux être capable de réparer qu'est-ce qui va mal présentement. Puis ça m'agace un peu. Tes impressions là-dessus, c'est quoi?
Ah, ça m'agace tout autant que toi. Je pense qu'il faut essayer de dissocier la préparation mentale avec les problèmes. Parce que je pense que ça vient aussi avec le tabou du côté psychologique. Ben, j'ai pas de problème, pourquoi j'irais consulter?
Ouais.
Fait que c'est ça, il y a cette connotation négative-là que je veux défaire, puis je pense que la façon que je peux mieux l'expliquer à mes clients ou aux athlètes, c'est mais regarde le côté physique. Tu sais, tu t'entraînes puis tout ça pour ben oui, prévenir des blessures, pour que tu sois prêt à la saison compétitive. Ben pourquoi attendre au niveau mental quand les choses vont mal pour pouvoir y travailler? Fait que c'est la meilleure analogie que je peux trouver, mais je suis bien d'accord avec toi que ça se travaille en prévention bien avant la saison. Quand on a le temps là, d'adresser ces choses-là. Puis ça s'applique à tout le monde, pas juste à ceux qui ont des difficultés.
Oui, puis je vais répéter ta phrase de tantôt en prenant conscience de soi-même, de dire « OK, mes outils, quand ça va bien, je les connais pour être capable justement. » Parce que souvent, on dit « quand ça va bien, oh, ben, je pense à rien. » Non, t'es dans un état d'esprit quelconque, mais c'est pas vrai que tu penses à rien. C'est impossible. T'es dans un état d'esprit qu'il faut ramener au moment que ça va mal. Puis ça, je pense que c'est un twist hyper important là, dans pour tous les coachs, pour les armer d'une façon très simpliste à donner un coup de main avec leurs athlètes.
Oui, bien d'accord avec toi.
En terminant, Lan, est-ce que tu as un conseil ou une suggestion à un ou une athlète qui hésite, par exemple, à consulter, qui peut être intimidé ou gêné ou pas certain que c'est pour lui? As-tu un conseil que tu peux donner un peu à tout le monde pour soit aller te consulter ou aller consulter une autre personne dans le même milieu?
Bonne question. Je dirais, tu sais, d'essayer. En fait, il n'y a rien à perdre avec prendre une consultation. Je pense que ça peut jamais, en fait, si le consultant suit le code d'éthique, ça peut jamais mener à quelque chose de négatif. Je pense que ça prend assez de curiosité pour... Tu sais, ça prend du courage, là, je vais le dire, c'est vrai, ça prend du courage d'aller consulter quelqu'un puis de s'ouvrir à cette personne-là. Mais soyez conscient qu'en tant que client, tu sais, c'est toi qui décides où est-ce que ça s'en va. T'sais, le consultant va pas t'imposer ou creuser plus profond que toi tu le veux. Faites confiance au consultant, puis essayez. Je pense que les gens sont agréablement surpris la plupart du temps.
Oui, puis je pense que tu... je pense que la barrière là, de dire « Ah, oh, il y a un psychologue », tu sais, la fameuse « Ah, oh, c'est un psychologue. Ah oh, non, c'est un préparateur mental. Ah, oh, OK. » Ben, c'est le même, ça va être le même impact qui va donner un coup de main. C'est vraiment dans la, ça fait partie, j'adore ton exemple de tantôt, la préparation physique, elle se fait de façon annuelle pour conclure la compétition. Ben, la préparation mentale doit aussi se bâtir d'une façon annuelle, tu parlais de résilience. Quand on est dans l'entraînement, en particulier à l'ABC, on a 6-7 mois intérieurs, à s'entraîner 15 heures semaine, à se défoncer au niveau physique. Il y en a de la résilience là. Il y en a qui faut être armé à ce moment-là. Là. Puis si tu fais pas tes devoirs, dans, j'aime beaucoup l'image un peu que quand tu fais pas tes devoirs là, puis quand tu te forces pas ou ce que ça chaîne pas, ce qu'on te voit pas là, ben quand ça va le temps de chaîner, ça va le temps de briller, il va te manquer des bouts. Là. C'est officiel.
Oui, puis je le dis toujours, tu joues comme tu pratiques. Donc, si tu pratiques pas le côté mental, attends-toi pas à ce que ça tout arrive de la façon que tu veux en compétition.
Exact. Lan, j'ai pas le choix parce que là, j'ai une question sur Facebook. Là. Il n'y en avait pas, puis là, j'en ai une, puis j'ai pas le choix de la poser, même si on dépasse un petit peu. Mais il y a Fred Lanoux qui demande comment est-ce que tu as acquis tes connaissances puis ton intérêt pour le baseball. Là.
On m'a lancé dedans. On m'a offert, dans le fond, une opportunité de travailler avec le sport-études baseball. Donc, je suis avec l'escadron sport-études de la Rive-Nord qui couvre 4 écoles secondaires là, qui ont des sports-études baseball. Puis j'ai accepté le challenge, même si je connaissais rien. Puis là, je l'avoue, pas très une grande fan de baseball avant ça. Puis c'est ça, j'ai accepté le challenge. Je connaissais rien dès le début. Puis les dirigeants là-bas m'ont encouragé à étudier un petit peu. Fait que j'ai pris des livres, j'ai écouté des games, j'ai lu des articles ou des sites Internet. J'ai vraiment été chercher l'information pour pouvoir développer. Puis ensuite, après avoir compris la base, là, j'ai été justement dans des matchs. L'été passé, j'ai même coaché bénévolement une équipe de Bantam 2A en tant que assistant coach, mais plutôt préparatrice mentale. Puis je me suis lancée dedans. Puis bien évidemment, avec une saison complète l'été, j'ai appris beaucoup. Fait que c'est ça. Je me suis lancée là, dans l'eau profonde. Puis je pense que j'ai réussi là, à m'en sortir.
Puis on est tellement fin au baseball, là, en plus.
Ben ouais.
On a une bonne gang, là. C'est cool, là.
consultante en performance mentale avec l'Académie de Baseball Canada. Lan, merci beaucoup ce matin.
Merci à vous, c'était fun. Oui.
Si on a des moments ou des questions par rapport à ce sujet-là, on te fait signe. Encore une fois, un gros merci. Merci tout le monde d'avoir été là ce matin. Salut.
Bye bye.
Membre de la famille H2O Web Media.